consonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Mes souvenirs, c'est comme un vermicelle que je vais tirer.
Oui.
Où veux-tu commencer ?
Tendre le micro à Jean Pouget, l'écouter nous dire son parcours de vie, c'est vivre 90 ans de notre histoire.
C'est croiser Émile Pouget, le journaliste anarchiste de la fin du 19e siècle.
Mais aussi André Marty, mutin de la mer Noire en 1919.
Albert Camus, tout jeune fondateur du Théâtre du Travail.
Puis Maurice Audin, militant communiste, assassiné en 1957 par les militaires français.
Partager une heure avec Jean Pouget, c'est voyager de Salles-la-Source en Aveyron jusqu'à Alger-la-Blanche, de l'autre côté de la Méditerranée.
C'est se laisser emporter par ces mots d'homme libre qui, fort de ses racines libertaires et communistes, mais aussi rouergate et algéroise, a toujours su avancer en témoin de son temps, intransigeant et refusant toute compromission.
Aujourd'hui, avec Jean Pouget, nous ferons un retour sur ses rencontres, ses souvenirs de famille.
Il nous fera partager le regard qu'il porte sur la jeunesse d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, alors que sort chez Gallimard le livre de Féline et Speaker Courdille, intitulé « Camus militant communiste Alger 1935-1937 », et auquel a collaboré Jean Pouget, il nous est précieux de débuter cette émission par les propos d'Albert Camus, tirés de son livre « L'étranger ».
J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir.
Dissonance avec Jean Pouget
sur Radio Sainte-Afrique.
Printemps 2017, nous sommes avec Jean Pouget à Salles-la-Source dans l'Aveyron.
Alors, en fait, je suis né en 1925 et pas du tout dans l'Aveyron, à Alger, où mes deux grands-parents étaient arrivés vers les années 1900. Alors, cette maison est en fait la maison des ancêtres du côté paternel. C'était des Rénales, et grâce à la découverte d'un journal intime de deux Rénales successifs, le journal, l'un d'eux débute à mon avis dans les années 1750, peut-être un peu avant, et il s'appelait Jean Rénal, et son fils s'appelait Naamas Rénal. Alors il y a beaucoup de gens dans le coin qui portent ce prénom, qui est celui d'un petit prophète de la Bible. Et donc c'est eux qui ont dû construire cette maison. Et j'ai trouvé donc ce journal qui raconte un peu l'histoire des vignerons du coin, parce que c'était des vignerons. Ils vivaient à la fois de leur terre et puis du commerce du vin, puisqu'ils le livraient à Rodez. Et donc, cette maison a ensuite été la maison de mon grand-père, qui était donc l'arrière-petit-fils de Jean Rénal. Et mon grand-père, qui était parti en Algérie après le baccalauréat pour un an, répétiteur. Et ce pays a dû lui plaire parce que ensuite il est rentré en France où il a fait ses études supérieures à Toulouse, où il a passé l'agrégation, puis ensuite il a préparé une thèse à Paris, et après avoir passé cette thèse, il a été nommé maître de conférence à Rennes, où il a dû passer quelques années, lorsque un des professeurs de ce qui s'appelait à l'époque l'École des sciences d'Alger, qui est devenue plus tard l'université, est mort. Et donc il a tout de suite postulé pour le poste de professeur de physique et chimie à l'université d'Alger.
Et ce grand-père s'appelait Isidore Pouget.
C'était Isidore Pouget, c'était le petit frère de Émile Pouget, qui était parti, lui, en pleine études secondaires, je crois. Il devait avoir 16 ans.
C'est Émile Pouget, l'anarchiste, l'auteur du Père Pénard, etc. C'est bien ce même Émile Pouget.
C'est bien lui, oui. C'est bien lui. Et donc, il est parti à l'âge de 16 ans, à mon avis, à Paris, où il a fait des petits boulots, etc., avant de rencontrer des cordonniers, d'ailleurs, je crois, anarchistes. Et
Louise Michel.
Puisqu'il a eu maille à partir lors d'une manifestation. Enfin, il y a tout. J'ai lu tous les débats de ce procès où il a écopé de 8 ans de réclusion qu'il n'a pas fait en entier d'ailleurs, je crois.
Et c'est ce qui a forgé ce côté peut-être anarchiste et militant du futur fondateur de la. Un des fondateurs de la CGT.
Ah oui, avec Grefeuille, je crois.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, état fraternel. Nous réaliserons l'idéal libertaire.
Dissonance avec Jean Pouget
sur Radio Sainte-Afrique.
Et donc, quand tu parles de l'anarchiste pur et dur, je crois que tu as chez toi tous les numéros du Père Pénard qu'il a conservé, Émile.
Et, oui, et que j'ai trouvé dans cette maison.
Voilà, et qui était un journal vraiment très, très... où il disait des choses vraiment très, très affirmées.
Ah ben, c'était à la fois amusant et percutant pour l'époque.
Voilà, donc tous ces documents, tu les as trouvés ici, parce qu'Émile Pouget revenait dans cette maison.
Ah ben alors, l'histoire de cette maison, en fait, donc Émile Pouget, l'anarchiste, a toujours cherché à militer, et surtout à faire des... il voulait créer des journaux. Et en fait, cette maison est devenue la propriété de mon grand-père parce qu'il y a eu un arrangement entre eux, étant donné que le beau-père ou l'arrière-beau-père d'Émile Pouget, l'anarchiste, était un horloger à Rodez. Il s'appelait Boissonnade. Et donc, à la mort à la fois d'Émile Boissonnade et de sa femme, etc., mon arrière-grand-mère a hérité de cette maison. Et quand elle est morte, ben, mon grand-père et Émile Pouget se sont arrangés et Émile Pouget a hérité de... l'horlogerie et la maison de Rodez, ce qui lui a permis, parce qu'il cherchait à avoir de l'argent pour fonder un journal qui, à mon avis, était la voix du peuple ou les luttes sociales. Donc c'est comme ça que mon grand-père est devenu entièrement propriétaire de cette maison, mais où évidemment Émile Pouget avait toutes ses affaires et c'est là qu'il avait pas mal d'archives. C'est comme ça que j'ai trouvé ici les reliés, les journaux du Père Pénard.
Tu n'as jamais croisé ton fameux grand-oncle, Émile Pouget. Par contre, tu as rencontré son épouse.
Non, parce qu'il est mort, j'étais bien sûr vivant, mais il est mort en 1931. Je crois.
C'est ça.
Et à Paris, à Lozère, dans la vallée de la Chevreuse. Et en revanche, j'ai bien connu sa femme qui s'appelait Augustine Jameau de son nom, qui était une veuve, à mon avis, d'un fonctionnaire en Indochine car elle avait toujours des objets qui lui permettaient de se souvenir de ces jours, de ces années-là. Et elle, je l'ai connue pas longtemps parce que lors de la mort d'Émile Pouget, mon grand-père Isidore Pouget, qui était encore à Alger et qui était vivant, l'a fait venir à Alger où elle a passé les années qui restaient avant la mort de mon grand-père Émile
Isidore.
Qui est mort, lui, en juillet 1933. Il tenait à mourir dans cette maison. Donc, c'est mon oncle qui l'a accompagné ici. Et sa tombe est dans le cimetière de Salles-la-Source. Et c'est évidemment la seule tombe, à mon avis, qui n'est pas de signe religieux.
Tout à fait.
Il n'y a pas de croix.
Oui, parce que ton grand-père était quelqu'un d'athée aussi.
Ah ben, mon grand-père n'était pas militant, mais il avait aussi ses idées, parce que je me souviens des grandes discussions avec mon autre grand-père à Alger, mon autre grand-père qui s'appelait François Léonardon, qui lui aussi était issu du milieu anarchiste, puisqu'il ne s'était pas marié avec ma grand-mère. Ce qui a valu d'ailleurs après dans la famille, parce que lorsque ma grand-mère est morte, d'une grossesse extra-utérine près d'Alger, parce que le médecin n'avait pas pu arriver à temps. Mon grand-père Léonardon, donc, puisque c'était son nom, s'est remarié avec une jeune fille de son village d'origine, Pionça, puis de Dôme. Mmh. Et là, il a dû consentir sans doute... je ne sais pas, pour des raisons diverses et variées, de se marier à l'église. Bien que, dans tout le cimetière de Pionça, où il y a où sont enterrés les ancêtres des Léonardons, chose curieuse, là non plus, il n'y a pas trois. Il y a sculpté deux mains qui se croisent.
Ah, le signe des... Oui, c'était le signe de la
symbole de...
Oui, fraternité.
Voilà.
De fraternité, tout à fait. Et je crois savoir, tu dois nous le raconter peut-être, que la carrière d'Émile Pouget a fait aussi que Isidore Pouget, on lui faisait savoir que son grand frère n'était pas tout à fait dans la norme.
Ah ben, ce que j'ai comme souvenir et qui se disait dans la famille, c'est que même pour l'agrégation à l'époque, c'est ce qu'on me disait, hein, je sens garantie qu'il avait été freiné dans sa carrière par le fait que son grand frère était l'anarchiste connu qui était d'ailleurs recherché par la police quand il venait dans l'Aveyron. Et ça, je le sais grâce à Joseph Fula.
Qu'a représenté et que représente dans votre histoire familiale à tous les Pouget ce grand-oncle Émile?
Ben, ça reste comme toujours une figure de la famille. Mais moi, comme j'ai été plutôt élevé par mes oncles et tantes de ma famille Léonardon, qui étaient plus proches de moi, c'était ma mère étant l'aînée, elle m'a eu quand elle avait 20 ans, et mes oncles et mes tantes avaient donc 10, 12 ans, l'aîné 12 ans de plus que moi. C'était un peu comme des grands frères, plus que des oncles et tantes. J'ai donc été élevé dans cette mouvance. Alors là, c'est là où intervient, je dirais, l'engagement politique plus vers le Parti communiste, parce que dans les années 30, est arrivé à Alger le neveu de mon grand-père Léonardon, qui était le fils d'un paysan du Puy-de-Dôme, près de Pionça, qui était lui devenu propriétaire grâce à son mariage avec sa femme qui avait des terres, parce que dans la famille Léonardon, c'était des métayers, ils n'avaient aucune terre dans le Puy-de-Dôme. Et ce fils qui s'appelait Antoine Léonardon, qui s'entendait à mon avis pas très bien avec son père au moins pour faire de la culture, est très vite parti et est devenu un employé de chez Philips à Clermont-Ferrand. Et très vite, là, il s'est mis à faire du syndicalisme et militant communiste. Et pendant longtemps, donc, il a été militant jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être un peu plus loin.
On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la la. L'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la. On mangeait des Leninsburger, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui.
Dissonance avec Jean Pouget
sur Radio Sainte-Afrique.
Et Émile Pouget, qu'est-ce qu'il représente toujours? Est-ce qu'on parle de lui dans la famille comme ce grand anarchiste ou comme plutôt un grand oncle qu'on a peu vu, parce que souvent à Paris?
Oh ben, de toute façon, dans ma famille Pouget, parce qu'il y avait mon oncle qui était un peu plus âgé que mon père, et à mon avis, sans dire de méchanceté sur lui, en fait, il a fait un très beau mariage, parce que lui, c'était un accoucheur réputé d'Alger, et il s'était marié avec une fille Carbonel qui possédait une imprimerie et des librairies à Alger. C'était pas le milieu où on mettait en avant Émile Pouget. Ma fille Sophie a été militante dès son plus jeune âge, parce qu'elle était au contact d'un ami un peu plus âgé qu'elle, c'était Edoui Plenel, qui était dans le même lycée. Et je me souviens des années 58 où elle était déjà engagée. Et elle s'est bien sûr pas engagée dans la mouvance de sa grand-mère, ma mère, mais plutôt dans la mouvance de la Ligue communiste.
Voilà, ta grand-mère qui était communiste. Et donc après, de ces graines d'anarchie, il reste encore quelque chose dans la famille, de ces graines semées par Émile.
Alors, ça laisse des traces, à mon avis, l'anarchisme, sans laisser des traces, je veux dire, précises. Ouais. Hein, peut-être qu'il y a un fondement derrière de libertaire, mais quand on est élevé là-dedans, moi, je me ressens pas comme anarchiste. Je n'aurais jamais adhéré non plus au Parti communiste, parce que ma mère en étant, je voyais ça de l'intérieur, je savais que ce n'est pas une situation qu'on peut envier d'être un renégat de l'époque où je parle.
Et donc en fait, on se retrouve à Alger avec ta maman.
Ma mère a adhéré très tardivement, je peux le dire, parce qu'elle est grâce ou à cause de Virgile Barrel. Alors Virgile Barrel, c'était un député communiste qui avait été enfermé par Daladier avec 30 autres en 1939. Ils avaient été arrêtés et ils ont été transférés dans la prison de Maison Carrée près d'Alger.
Vamos allá la guapa.
Là, nous sommes dans les années 43, 44, 45.
Alors, c'est ça. Donc,
tu as 20 ans.
Oui, je reviens donc à Virgile Barrel. C'est en février 43 seulement que les députés communistes enfermés à la prison de Maison Carrée ont été libérés. Et il s'agissait de les accueillir. Alors, dans les familles, dans ma famille, par exemple, c'est Virgile Barrel était hébergé dans l'appartement de ma mère, parce que mon beau-père était engagé dans les corps francs, il était en Tunisie à l'époque, et d'autres comme Lozeret, qui était membre du comité central, était dans ma famille, la famille de Goers, etc. Donc il y avait aussi Fajon, Émile Fajon, je crois, qui était dans une autre famille, enfin, et c'était donc une période qui est devenue très intéressante parce qu'on côtoyait beaucoup de gens.
Tu avais 20 ans, mais toi, tu n'étais pas engagé au PC.
Non, ben, comme je l'ai sans doute expliqué tout à l'heure, pour des raisons sans doute les mêmes que ceux de ma mère, moi, j'étais ce qu'on appelle un compagnon de route. À ce titre, j'ai été donc engagé dans des luttes étudiantines. Je suis devenu vice-président de l'association des étudiants parce que les membres des jeunesses communistes m'avaient poussé à ça et m'entouraient, etc. Donc c'est déjà des situations un peu... Les enfants d'Émile Thorez, que je sache, n'ont jamais non plus adhéré au Parti communiste et étaient plutôt en retrait. Moi, j'ai eu déjà à l'époque connaissance de tous ceux qui étaient qualifiés de trotskistes, etc. Des choses. Je ressentais ça comme quelque chose de assez injuste. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on parle d'André Marty.
Oui, justement, tu as croisé André Marty, qui était le fameux mutin de la mer Noire, mais qu'on appelle aussi le boucher d'Albacete pendant la guerre d'Espagne en 1936-1939.
Alors, ce que je voulais dire d'André Marty, c'est que ma mère, à ce moment-là, qui s'était engagée au Parti communiste et qui avait aussi Virgile Barrel, recevait beaucoup de gens. C'est comme ça qu'on recevait des gens de passage ou qu'on était invité. Et c'est fort intéressant aussi de rappeler qu'elle était invitée à l'époque au consulat soviétique à Alger. J'en reparlerai après parce que le consul qui s'appelait Kostiagin est devenu ambassadeur lors de l'indépendance de l'Algérie. Et je l'ai retrouvé. Et ça rejoindra ce que je viens de dire parce que c'était l'époque où de Djanov, je ne sais pas si je prononce bien, où au niveau de la culture, il y avait une culture soi-disant socialiste et une culture capitaliste. Donc, auprès des gens de ma famille qui étaient souvent artistes ou qui étaient intéressés par la culture, dans des dîners où assistaient des gens comme Kostiagin, il y avait des réticences, évidemment. C'était Picasso à l'époque, et qui pour les soviétiques était, bon, c'était l'art dégénérescent.
Et André Marty, alors, puisqu'on avait commencé là-dessus.
Alors, puisqu'André Marty, il est, comme d'autres, venu dîner chez ma mère, qui recevait, en général, quand elle recevait comme ça des gens qu'on considérait importants par leur aura. Et donc, André Marty, l'image que j'en ai gardée, c'est qu'il était avec sa compagne, qui était aussi sa secrétaire, qui avait au moins 20 ans de moins que lui. Oui, en fait, c'est l'époque du culte de la personnalité, surtout au sein des PC. Donc Marty, c'était pour les Français, pour le Parti communiste français, un des chefs incontesté comme Maurice Thorez, d'ailleurs. Voilà, à l'époque, André Marty, comme Charles Tillon, il avait comme aura celui d'avoir été les révoltés de la Mer Noire en 1919, 17. Je crois. Oui, hein, et bien sûr, à l'époque, on ne le traitait pas de boucher d'Alpacette parce qu'on ne devait pas encore savoir.
Il était
à la tête des brigades internationales. Et bon, maintenant, à l'époque où nous sommes, on sait que c'est un peu ce qui s'est passé du temps de la guerre de 14, où on envoyait les brigades internationales au feu et fusillait les gens qui refusaient. Ça, il y a un film de Rothman là-dessus, je crois.
Avec Jean Pouget
sur Radio Sainte-Afrique.
Tu as évoqué Albert Camus.
D'abord, Albert Camus avait le même âge que mes oncles Léonardon et De Geurs. Ils étaient au lycée, le grand lycée d'Alger, qui s'est appelé plus tard le lycée Bugeaud avant de devenir le lycée Abdelkader. Donc, mes parents ont été amenés, ainsi que mes oncles et tantes, à participer au théâtre du travail.
Monsieur Albert Camus, je crois qu'on peut dire que le thème principal de votre œuvre est celui de la liberté. La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir. C'est la définition la plus actuelle que je connaisse à ce mot.
Je viens de dire que votre thème maître était celui de la liberté, mais je crois qu'il rivalise chez vous avec celui de l'individualisme se heurtant aux nécessités de la vie sociale.
Je n'en suis pas sûr. Je crois que nous avons à définir en effet un nouvel individualisme, mais il est vrai qu'il se définit pour moi assez facilement. Tous représentent la dignité de chacun et chacun a la charge de la dignité de tous.
Je pense que c'est vers l'âge de 10 ans que donc, beaucoup de membres de ma famille, je ne vais pas tous les énoncer, mais je peux quand même dire qu'il y avait ma mère, mon beau-père. Mon beau-père a été même trésorier du Théâtre du Travail. Ma mère a joué ainsi que mon beau-père, et Jean de Goers et mon oncle Léonardon dans des pièces de théâtre.
C'était un théâtre où jouait aussi Albert Camus ?
Ah ben oui, il jouait, c'est, non seulement il jouait, c'est lui qui était l'organisateur et le metteur en scène et acteur aussi. Alors c'était des pièces qui n'étaient pas toujours considérées par d'autres membres du Parti communiste. Ça a été le sujet de problèmes avec du temps de l'élimination de Camus. Il y avait Prométhée enchaîné, le paquebot Tenacity, la femme silencieuse de Ben Jonson, etc. Donc, moi, j'avais 10 ans, j'assistais à la mise en place des décors, etc., avec une fille qui avait le même âge que moi, qui était la fille d'un entrepreneur qui mettait à disposition son camion, etc., pour transporter les décors. Il s'appelait Valigorski.
Et donc, toi, tu avais 10 ans. Camus avait quoi, 20-30 ans?
Ben, Camus, il était de 1912, si je ne me trompe pas. Ouais. Moi, je suis né en 25. Et donc, ça se passait dans les années 36.
D'accord. Hein, et donc, Albert Camus venait manger à la maison aussi, j'imagine, et il était au Parti communiste de 1935 à 1937, chose que peu de gens savent.
Peu de gens, c'est-à-dire...
C'est
difficile pour moi, hein, à l'âge que j'ai, de savoir comment se représente... moi, j'ai mon vécu, et je sais qu'il y a deux générations déjà. Je sais parce que j'ai un petit cousin qui a 21 ans de moins que moi, et ça fait une différence dans la perception à la fois des événements politiques, etc. Il y a le vécu,
et la perception.
Il y a aussi, pour les gens, ce qui fait partie presque de l'histoire.
C'est vrai. Et donc toi, comment tu le perçois, Albert Camus, que tu connaissais comme un militant communiste, ou comme membre du PC ?
Ben, je le perçois comme... un peu tous les gens que je côtoyais, bien sûr, avec une aura, parce qu'il devait quand même avoir une personnalité suffisamment importante pour pouvoir avoir à la fois créé ce théâtre du travail, et puis il avait la réputation quand même d'être quelqu'un qui, pour le moins, intelligent, voilà. Et en plus de ça, il sortait du quartier de Bellecour, où ma mère avait sa pharmacie, et qui le côtoyait parfois, d'ailleurs, dans la rue. Voilà, c'est difficile à dire. Moi, je perçois Camus comme quelqu'un bien avant qu'il ait eu le prix Nobel.
Oui.
Et le peu que j'en sache sur lui, c'est ce que j'ai lu... de ce qu'il a écrit, Le Premier Homme, ou bien de ce qu'il racontait à ses amis comme Charles Poncet, dont il est grandement question là-dedans, qui était lui quelqu'un qu'on recevait beaucoup, puisqu'il a même habité Nice, et peu avant sa mort, il venait encore chez nous avec d'autres amis de Camus, comme Robert Namia, que j'ai connu jusqu'à sa mort. Robert Namia a fait beaucoup de voyages en Algérie avec nous dans la post-indépendance.
Dissonance avec Jean Pouget
sur Radio Centrafrique.
Oui, après avoir fait une année de mathématiques spéciales à Saint-Louis, c'est à la rentrée de 1946 que j'ai rencontré pour la première fois Colette qui venait du Maroc où elle avait passé le baccalauréat et fait une année à ce qui s'appelait le centre universitaire de Rabat, parce qu'il n'y avait pas d'université dans toute l'Afrique du Nord, hormis celle d'Alger. Voilà, j'ai connu Colette à ce moment-là, et en octobre 46, et on s'est mariés en octobre 49, et bon, depuis, on a passé l'agrégation ensemble, et puis après, moi, on est resté en Algérie jusqu'en 1971. Ensuite, nous avons retrouvé ma mère qui avait été expulsée, qui s'était installée à Tourette-sur-Loup.
Elle avait été expulsée, tu peux nous expliquer pourquoi ?
Ben, comme mon oncle Jean de Geurs et ma mère à la même époque, c'est l'époque de la bataille d'Alger, ma mère était souvent interrogée par la DST, Direction de la Sécurité du Territoire. Mon oncle Jean de Geurs était peut-être plus fiché parce qu'il avait milité bien avant, et lui a été carrément expulsé. C'était au moment donc des années 56, deux ans après le début de la guerre d'Algérie. Ma mère a été interrogée plusieurs fois, je dirais correctement, la dernière fois, sans prévenir la famille, ils l'ont mis sur le bateau du soir pour Marseille.
C'était en quelle année ?
Ça, c'est octobre 56. C'est à peu près la mauvaise époque, puisque je pense que c'est en 57 qu'Audin a été assassiné par l'armée. Enfin, Audin était beaucoup plus jeune que moi, et il avait été remarqué, il sortait je crois d'une école d'enfants de troupe, et il avait été remarqué à l'université par notre patron commun, Colette, moi et lui, qui s'appelait René de Possel. Audin, donc, je l'ai bien connu parce qu'à l'université d'Alger, les mathématiciens avaient peu de mètres carrés. Il y avait un bureau qui servait aussi de bibliothèque pour les professeurs avant qu'ils venaient s'asseoir un peu avant de faire cours pour préparer et réviser un peu leurs cours. Et à côté, il y avait la salle du conseil, le conseil de la fac des sciences, qui était en quelque sorte réservé aux chercheurs. Il n'y en avait pas des masses, il y avait en particulier Audin qui était là. Moi, j'avais déjà passé l'agrégation bien longtemps avant, et donc je passais là souvent et on discutait politique, parce que moi j'étais déjà pas un renégat puisque j'avais jamais appartenu, mais j'étais donc pas dans la mouvance, disons, alors que Maurice Audin était, lui, très impliqué, il s'en cachait pas, hein, d'être membre du Parti communiste, même si le Parti communiste était déjà interdit en Algérie. Et bon, je savais qu'il devait faire des choses qui n'étaient pas dans la légalité. C'est là où on rejoint André Marty, parce que c'est l'époque où André Marty et Charles Tillon ont été mis sur la touche, et plus que ça, parce que bon, on avait l'habitude dans ce genre de choses de considérer que les gens étaient des traîtres déjà de longue date, ils avaient trahi déjà du temps de la mer Noire, donc ça, enfin, pour avaler des trucs pareils, il fallait déjà avoir une certaine croyance.
Et tu en discutais de ça avec Maurice Audin, par exemple?
Ben oui,
Maurice
Audin. C'était un grand sujet de débat entre nous. Parce que, je ne sais pas comment dire, comment quelqu'un de très, très cultivé, surtout en mathématiques, et qui pouvait avaler des pilules pareilles. Mais bon,
Et sinon, pour revenir sur Maurice Audin, qu'est-ce qu'il faisait comme acte répréhensible ?
Ah ben, je pense que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Il faisait des faux papiers.
Donc, il faisait des faux papiers. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après, Maurice Audin ?
Ah ben, il a été arrêté. Il était de la même cellule, d'ailleurs, que ma mère, je crois. Et qu'un autre, Henri Alleg, qui a écrit la question. Bon, il a été donc passé à la question, hein, oui, comme savaient le faire les militaires vis-à-vis des terroristes, entre guillemets, et ceux de la LN.
Tu parles des militaires français, des militaires français.
Ah ben oui, les militaires français. Ouais, ouais. D'ailleurs, bon, suffit de se reporter des choses sont quand même mieux connues maintenant qu'à l'époque.
Et quelle est la fin de Maurice Audin ?
Ben, il a sans doute été torturé à mort, et ensuite ils ont inventé une histoire qui se serait évadé en sautant d'une Jeep en marche, enfin bon, une histoire à dormir debout.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire ? C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Dissonance avec Jean Pouget
sur Radio Centrafrique.
Donc en 71, retour en France.
En 61.
France.
Oui, après on est retourné travailler.
Voilà, en 71, retour en France, Jean Pouget. Quel regard tu portes sur ces années algéroises, toute ton enfance ? Et ce que c'est, ce qu'est devenu l'Algérie maintenant, et la libération.
C'est compliqué. C'est très compliqué. Ben, mon enfance, c'est mon enfance, c'est mon vécu d'enfant dans une Algérie pacifique, même si elle était coloniale. Je pourrais m'en expliquer, parce que même certains Algériens doivent l'avoir perçu comme moi à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que c'était la justice qui régnait, bien au contraire. Mais je sépare deux choses. Je sépare toute mon enfance de mes 10 ans passés, ou presque 10 ans passés, avec ma famille, Colette et mes deux filles, dans l'Algérie indépendante. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est deux tranches. En gros, si je séparais ma vie en tranches. Il y a 10 ans de ma première existence, après il y a les 10 ans de ma vie d'adolescent et d'étudiant, et ensuite il y a 10 ans qui se sont passés, moi étant marié, sans famille ou presque, dans l'Algérie pré-révolutionnaire, mais enfin qui était quand même pacifique encore. Et puis il y a les 10 ans, alors je ne sais pas si ça fait 10 ans encore, mais enfin, il y a la période de la guerre d'Algérie qui a quand même duré de 1954 à 1960, ça fait quand même 6 ans. Et puis après, il y a les 9 ans de l'Algérie indépendante où j'ai vécu comme enseignant à l'université et à l'Institut d'études nucléaires, et qui, je l'ai souvent dit aux gens qui m'interrogeaient, que je considère comme parmi les années les plus riches de ma vie. Quand je parle de ça, j'ai ma voix qui se coupe.
Donc après, c'est la France, toujours enseignant, responsable de l'université à Nice, et puis après conseiller municipal, et aujourd'hui à la retraite.
Tu me dis conseiller municipal ? Jamais.
Ah oui, c'est vrai, tu t'es présenté plusieurs fois, mais jamais élu.
J'étais sur les listes d'Union de la Gauche, ou genre de ce qui se passait à Grenoble, du Bedou, c'est-à-dire, comment ça s'appelait ? Ah non, mais j'ai jamais été un élu municipal. Toujours blackboulé.
Jean, tu as eu une vie très très riche avec des graines d'anarchisme. Après, plongé dans un milieu de militants et de responsables communistes, tu n'es jamais rentré au PC, tu es toujours resté à l'écart, mais tu es toujours à gauche. Quel regard tu portes sur aujourd'hui, sur l'actualité ?
Ça serait classique de dire qu'il y a toujours eu beaucoup de déceptions dans la vie, mais l'histoire c'est pratiquement fait de déceptions. Hein, la guerre d'Algérie, telle qu'on pouvait l'imaginer au départ, ça s'est terminé le plus mal qu'on puisse imaginer. Hein, avec l'OAS qui a fait en quelque sorte que les gens ont fui, alors que ça pouvait être, je dis ça pouvait être, mais en général les choses ne tournent pas dans le bon sens. En général, pour l'humanité, c'est toujours dans le sens de la... Je ne sais pas quoi dire, mais que ce soit... Quand je pense à tout ce gâchis, parce que c'est du gâchis, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'état actuel des choses ? Qu'on est paumé. Quand je dis paumé, je veux dire par là que... c'est un monde un peu à l'envers. Hein ? Une Amérique qui élit un Trump, une France où la moitié, sinon la moitié, une bonne partie de la population s'apprête à amener au pouvoir, on ne sait même plus quoi dire, si c'est des fascistes, des nazis, c'est même pas ça, on ne sait pas. Et pourquoi ces gens choisissent ça, on ne sait pas non plus. Enfin, moi, je ne sais pas. Ils disent qu'ils en ont assez des politiques. J'avoue que enfin, c'est un peu succinct ce que je dis, parce que c'est vrai que on cherche à comprendre, quand on est un peu rationnel, où est la rationalité dans tout ça, et c'est dur de les gens sont prêts à revenir à une situation où une guerre de 1914 pourrait de nouveau se déclencher, ou, où le fascisme reviendrait au pouvoir. Ça n'a pas l'air de, ça a pas l'air d'effleurer les gens. C'est... Mais cela rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à 90 ans, les gens qui ont 20 ans, on a de la difficulté à savoir comment ça fonctionnait dans leur tête, malgré le fait qu'ils ont, incontestablement plus de maturité intellectuelle, on pourrait le croire, que ceux de leurs ancêtres qui ne savaient pas lire ou n'étaient pas allés à l'école. Je ne sais pas, j'avoue que je suis paumé. Ben, y a une chose évidente, c'est que je trouve que j'ai eu une chance inouïe de vivre ce que j'ai vécu, de connaître autant de gens, de les avoir approchés. Je pense que peut-être que c'est une exception, je ne sais pas. Si j'en juge à travers ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé en France, c'est-à-dire à l'âge où j'avais pas encore 50 ans. J'ai l'impression que c'est les premières 50 ans où j'ai rencontré tout ça qui font que ça remplit ma vie. Mais après, j'ai encore rencontré des tas de gens intéressants. Mais c'est pas la même chose.
Et pour moi, Jean Pouget, Jean, tu es indissociable de Colette, ta compagne et ton épouse qui partagent ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot, juste avant de finir, pour finir ?
Ben, j'oserais pas dire qu'elle est remarquable, puisque je l'ai remarqué. Bon, la première fois que, comme je l'ai expliqué, bon, c'est amusant, mais c'est intéressant, c'est que on s'est rencontrés, donc, et on avait un cours tout de suite après, dans un grand amphi, et il se trouve que j'étais assis sur la rangée arrière, et avec un de mes amis, Jean-Louis Bureau, dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, et elle avait une curieuse manière de tenir son stylo, parce que c'est difficile à expliquer, mais ça me faisait un peu l'impression qu'elle tenait son stylo comme un manche, on tient un manche de marteau. Bon, enfin, je veux dire, ça explique si rien sur son caractère, mais voilà. Donc ensuite, eh ben, comme on a vécu quand même pratiquement toutes nos études ensemble, on a eu le même patron, René de Possel, qui lui a fait faire un certificat d'études supérieures nécessaire pour l'agrégation. Moi aussi, c'était différent. Il est vrai que avec Colette, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais on a toujours été ensemble et on ne s'est pas beaucoup caché de choses, je dois dire.
Et vous avez toujours plaisir, tous les deux, à revenir vous replonger, vous ressourcer ici, à Salle La Source.
Parce qu'elle a beaucoup travaillé dedans, moi aussi. Je me raccroche à cette maison, ça fait partie, ça fait partie de toute ma vie, je veux dire. La photo qui est là, en atteste. Ouais.
Et sur la photo, pour les auditeurs, on voit...
La photo, c'est la photo de mon grand-père, avec moi, la photo de mon grand-oncle Émile Pouget avec sa compagne, et voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Oh, je t'en prie.
Jean. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez les références des chansons entendues ainsi que des liens qui complètent cette émission. Cette émission sera rediffusée samedi 24 juin à 16h, lundi 26 juin à 20h et mercredi 28 juin à 11h.
La bohème, هذا سنفخر, أمرح بيستيري. لا La bohème, la bohème.
Ah, c'était-là, ta wampentenzi.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
نسال ما زكاك ثبور تسن لي هدن بنتي ثمورا غنو ذكرى نبغى مدوينة كوي نتمني نتسيذر ذي ترقى نومنس الموزيكا دي مديازن مثل لي لا بوهم لا بوهم نظفر ثلقيت أكيني La bohème, la bohème, où les oiseaux d'armes et les gibis ouïent. Ça me dit dans le sobon, tu casseras de gommet romi, ou à Knadna, oui, mansi, mais le mythe sera les doros. Un azil s'abistro, gdhine tsrimi. مين عين نستعفو تخمتات ابني كروبة بس يقبل سكريدي تفرارة ما تثرزو أذيت برنان الدو أبريدة تنوي لا بوهم لا بوهم النوبة النار أسد نفلالي لا بوهم La bohème, elle a rit chaud, Ramadan raillerouille.
Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe d'une hanche.
Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions. السام اليفري يمحتادي ظلي غفص مكني الهنوس الزيغ سام كانني عندما مقرى ثيرين نتظر غدي قرى وفي يكفى كل شي وردي قيمينيه نسينا غدي كازما يفسي وزرار نسني هيخفي وهني تسوميني عدا لا
Rallume une mesure.